Alors, je vous l'avais annoncé hein, au début de cette Eucharistie, on va prendre appui sur la première lecture, puis on va harmoniser un peu avec tout ce que Saint Jacques nous disait dans la deuxième lecture, ce que Jésus vivait dans cette controverse avec les pharisiens. Je vais commencer par un petit mot sur la première lecture. Vous l'avez entendu peut-être, c'est dans le livre du Deutéronome. Alors, le livre du Deutéronome, si vous allez dans vos Bibles, hein, c'est l'un des cinq premiers livres de la Bible. Et vous savez que ces cinq premiers livres forment un ensemble très important, notamment pour nos frères et sœurs juifs. C'est la Torah, c'est la loi. Alors la loi, comprenons bien, hein, pas un code civil, pas une série d'articles, hein, c'est avant tout, vous voyez, cette alliance indéfectible de Dieu avec nous. C'est ça, hein, quand on parle de la loi, c'est ça d'abord. Un Dieu qui fait une alliance indéfectible avec nous. Et dedans, les commandements ont leur place. Alors, ne soyez pas étonnés. Dans la tradition biblique, ceux qui écrivent, les scribes qui écrivent ces textes que nous recevons dans le Pentateuque, eh bien, attribuent ces paroles de la Torah à Moïse. Alors, les esprits chagrins diront, bah oui, mais du coup, Moïse raconte sa mort, alors c'est pas possible, c'est faux, tout ça, vous savez, un peu toutes ces polémiques au sujet de la Bible. Les scribes qui ont écrit ça le savaient très bien. Mais jamais ils n'ont voulu, par orgueil, s'attribuer la parole de Dieu. Alors ils l'attribuent à Moïse. Pourquoi Moïse ? Parce qu'il a une mission extrêmement importante et unique dans l'histoire du peuple de Dieu. Vous vous rendez compte quand même, Moïse, c'est celui qui a été choisi pour la sortie d'Égypte. Ah, il n'était pas tout à fait d'accord. Ah, je ne sais pas si on emmène Clarisse en Égypte. Non, hors d'Égypte. Voilà. Heureusement, il nous reste sa sœur. Voilà, donc, Moïse conduit son peuple hors d'Égypte. Ce n'était pas un sketch prévu hein, pour ça. Moïse, c'est aussi celui qui reçoit au mont Sinaï la Torah, la loi. Alors, la loi au sens noble du terme, il reçoit la loi de la main de Dieu. Et puis, il est celui qui va conduire le peuple dans le désert. Alors ça, c'est une expérience difficile parce que la liberté, c'est bien, mais la liberté, parfois, ça nous fait faire un peu n'importe quoi. Voilà, Moïse, c'est tout ça. Donc, on lui attribue les paroles des cinq premiers livres de la loi. Et donc, on n'est pas étonné qu'aujourd'hui, ce soit lui qui nous parle. Et c'est très beau. Moïse s'émerveille. Vous voyez, c'est pas d'abord un langage, t'as le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Moïse s'émerveille. Il voudrait qu'on s'émerveille avec lui. Il voudrait qu'on rentre dans son émerveillement. Pourquoi il s'émerveille, Moïse ? Eh bien, parce que le peuple a reçu une loi et il entrevoit que cette loi, si elle est écoutée et si elle est mise en pratique, devient aussi un sujet d'émerveillement, une lumière pour tous ceux et celles qui vont fréquenter le peuple de Dieu. Vous voyez, il y a déjà cet aspect de témoignage. Alors il nous le dit avec ces mots, « Quand les peuples entendront parler de tes décrets, ils s'écrieront, « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. » Alors ça vous fait peut-être penser à une parole de Jésus. Matthieu, chapitre 5, on est dans le sermon sur la montagne, et Jésus dit, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Vous voyez, il y a toute cette dynamique et Jésus accomplit ce que Moïse avait déjà entrevu. Alors Jésus continue, « Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Vous voyez, toujours cette même dynamique. On a reçu, mais on n'a pas reçu pour nous. On a reçu pour que ça rayonne auprès des autres. Je pense que l'apôtre Jacques, dont on a entendu un extrait dans la deuxième lecture, l'apôtre Jacques avait dû retenir profondément cet enseignement du Christ. Parce que, dans cette lecture, justement, il nous redit « Devant Dieu notre Père, un comportement religieux, pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. » Vous voyez, toujours cette même dynamique, quelque chose qui nous habite et qui rayonne pour tous ceux qui nous côtoient. Voilà, alors ça c'est le projet, très beau projet. on est habité par quelque chose qui rayonne et qui fait du bien aux autres. Ça, c'est le projet. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à ce projet ? Parce que sinon, le monde serait un paradis sur terre. Alors, qu'est-ce qui peut faire obstacle à ce projet ? Jésus nous le dit, toujours ce sermon sur la montagne, il nous dit, si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Et par moments, quand on dit « Ah oui, mais on n'est pas accepté avec notre foi chrétienne, etc. » Réfléchissons aussi deux minutes et disons-nous « Ben, peut-être parce que ce n'est pas le sel de l'Évangile qu'on annonce, c'est peut-être autre chose, peut-être qu'on s'est un petit peu dévoyé. C'est peut-être pour ça qu'on est piétiné. » Une réflexion qui est intéressante. Jacques aussi le dit dans sa lettre « Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. » Et Moïse avait averti également le peuple de Dieu. Il leur avait dit « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez le commandement de votre Dieu tel que je vous l'ai prescrit. » Vous voyez, il y avait cet émerveillement et en même temps, attention, attention parce que ça peut aller vite et on peut ne plus être lumière du monde, on peut ne plus être celle de la terre. Alors dans la réalité, effectivement, on en fait l'expérience nous-mêmes, ça se révèle beaucoup plus compliqué. Et d'une certaine manière, on connaît bien les travers dans lesquels le peuple de Dieu va tomber, mais ces travers-là, c'est les nôtres. Alors on va conclure par ça. Et ça va être l'enseignement qu'on va essayer de retenir, peut-être l'avertissement qu'on va essayer de retenir. Peut-être même que ça pourra nous conduire tout au long de cette année à être vigilants à certains points. Jésus met un mot sur ce travers. Premier travers, l'hypocrisie. Aucun d'entre nous n'a envie qu'on lui dise « Mais toi, t'es hypocrite, on n'a pas envie de l'être. » Et puis par moments, on peut l'être un peu, y compris même dans des gestes religieux. Alors là, on est en train de célébrer la messe, on sait bien que dans la liturgie, parfois, il y en a qui sont capables de dire « Oui, mais il faut faire comme ceci, comme cela, etc. Et, » et pour eux, ça devient même plus important que l'écoute de la parole de Dieu et que le Christ qui se donne à nous. Et on sait bien que dans l'histoire de l'Église, ça a créé beaucoup de conflits, même qui ont abouti à des divisions. Vous voyez, l'hypocrisie. Et Jésus dit « Vous remplacez la loi de Dieu par des traditions humaines. Ne faisons jamais ça. » Dans nos paroisses, on a des belles habitudes, on est habitué à faire comme ceci, comme cela, certaines personnes ont telle ou telle responsabilité, que ça ne prenne jamais le devant sur les commandements de Dieu et sur le Christ qu'on célèbre. C'est au service de l'annonce de l'Évangile. Sinon, notre sel devient fade, il ne sert plus à rien. L'autre travers, le dévoiement de la notion de pur et d'impur. Alors c'est vrai que c'est une notion qu'on n'utilise pas forcément beaucoup, nous, dans notre langage chrétien, mais quand même, on voit revenir un peu dans des discussions, est-ce que j'ai le droit de faire ceci, est-ce que j'ai le droit de faire cela ? Et puis très vite, le pur et l'impur deviendraient un mur. Eux, c'est des impurs. Moi, je suis pur parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, parce que j'ai pas de tatouage ou parce que je mange pas ceci ou cela, moi je suis pur. Complètement stupide. Ce n'est pas la parole de Dieu. Le pur et l'impur n'étaient pas faits de cette manière-là. Le pur, c'est de dire que Dieu seul est pur et de dire qu'à son contact, nous pouvons être purifiés de nos péchés. C'est ça la notion de pur et d'impur. Vous voyez bien, ce n'est pas un mur du coup. C'est au contraire une invitation à aller vers l'autre et à lui dire, ben, moi j'ai la source de la pureté, je connais Dieu, si tu veux, deviens pur avec moi. Grâce à Dieu, pas en faisant telle ou telle petite pratique, le pur et l'impur. Laissons à travers notre foi la pureté de Dieu atteindre tout homme. Et puis aussi, le dévoiement de la notion de terre promise. Vous entrerez dans le pays que je vous donnerai, hein, disait le Seigneur. Et certains ont cru que ce pays, c'était une terre précise. Ils ont même cru qu'il fallait du coup chasser tous ceux qui étaient sur cette terre. Chaque fois que nous faisons cela, c'est un germe de guerre. Alors évidemment, ce serait facile de dire, ben oui, regardez Israël actuellement, voilà ce qu'ils font, etc. Oui, nous sommes effrayés de cette guerre. Mais regardons plutôt nous, en tant que chrétiens. C'est aussi une difficulté qui peut nous toucher. Chaque fois qu'on dit, tiens, cet espace géographique, l'Occident, l'Europe, la France, etc., c'est une terre chrétienne. Voilà, ici, on est chez nous. C'est pas ça, la terre promise. Bien sûr, il y a des racines chrétiennes qu'il convient d'honorer et de ne pas effacer. Mais la terre promise, c'est pas ça. La terre promise, nous dit Jésus, c'est chaque fois que, dans notre cœur, nous avons laissé régner la parole de Dieu, afin que, en vivant avec les autres, quel que soit l'endroit où nous sommes, eh bien, Dieu puisse régner. Dieu puisse régner par la grâce de sa sagesse, de sa loi et de ses commandements. Voilà la réelle terre promise. Du coup, la terre promise, elle est partout où nous sommes, partout où nous mettons en pratique la parole de Dieu. Voilà, demandons au Seigneur la grâce de fuir l'hypocrisie. Demandons au Seigneur qu'il nous rende purs. Demandons au Seigneur de transmettre cette sagesse au monde entier et que ce témoignage puisse permettre à tout un chacun de s'émerveiller à son tour de cette parole qui peut transformer sa vie. Amen.